Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bienvenue dans Zoom Écologie sur Fréquence Paris Pluriel. Aujourd'hui, on va parler gaz de schiste, puisqu'on est allé récemment faire un tour à un rassemblement qui a eu lieu début février devant le siège de Total à La Défense, qui était appelé par des militants et des militantes algériens et algériennes pour s'opposer à l'exploitation du gaz de schiste en Algérie. Avant de lancer notre petit reportage dans ce rassemblement, on voudrait faire un petit point. Comme ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du gaz de schiste, pour faire un petit rappel sur ce que c'est déjà le gaz de schiste et comment se passe l'exploitation donc, de cette énergie fossile qui est présentée comme une énergie complémentaire au pétrole et au gaz qui intéresse pas mal notamment les grosses entreprises pétrolières et les entreprises hydrocarbures. Voilà, donc est-ce que tu peux nous dire deux mots, Liam, sur cette énergie du gaz de schiste et sur la façon dont c'est exploité ?
Oui, bah effectivement, le gaz de schiste, c'est vrai qu'on entend moins parler depuis 2012, puisque en fait en France c'est quelque chose qui est interdit, donc effectivement c'est moins d'actualité dans le débat national. On avait entendu parler, on va revenir en fin d'émission un peu sur le cas français, pourquoi on a entendu parler à ce moment-là. Mais donc deux mots sur le gaz de schiste et la fracturation hydraulique, parce que les deux sont extrêmement liés et qui font en fait la contestation en général de cette exploitation pétrolière. Alors, si les deux sont liés, c'est parce que donc, le gaz de schiste, si ça prend ce nom-là, c'est parce que c'est du gaz ou du pétrole qui est présent dans les porosités de la roche mère. On appelle ça aussi du gaz de roche mère. Et en fait, c'est donc très profondément dans le sous-sol, hein, c'est à plusieurs kilomètres. Et ce n'est pas donc, des grandes cavités de pétrole ou de gaz qu'on peut exploiter comme c'était le cas avant, mais plutôt dans la microporosité des espaces dans lesquels il y a du gaz, enfin, dans la roche même. Et donc, il faut fracturer la roche pour, en fait, d'une certaine façon, créer des espaces dans lesquels le gaz se libère et qu'on peut récupérer. Et donc, c'est extrêmement lié donc, à la fracturation hydraulique, qui est donc le nom de la technique, qui consiste à envoyer de l'eau à très haute pression dans la roche pour la fracturer et faire sortir sous la pression le gaz et le pétrole, et en mettant aussi du sable dedans pour maintenir les pores ouverts, et ainsi qu'un ensemble de produits chimiques qui vont aider à la fracturation et à la libération du gaz. Donc, en résumé, c'est qu'on a donc une installation, un puits de pétrole qui va être installé, un puits de forage, en fait, plus précisément, dans lequel on va rentrer de l'eau à très forte pression avec des adjuvants, et de l'autre, une sortie de gaz et de pétrole qu'on va récupérer. Et donc, il va y avoir autant de puits qu'il y aura d'exploitation. Donc, ça peut être un maillage comme ça, avec un va-et-vient de camions qui va devoir installer tout ce matériel-là, poser les puits, l'en faire l'extraction, et ensuite ramener le pétrole et le gaz. Donc, c'est quelque chose qui est désormais interdit en France, mais qui est très présent aux États-Unis, dans d'autres pays, à l'exploitation pétrolière beaucoup plus laxiste, on va dire.
Alors, tu viens de dire que c'est une méthode d'exploitation qui nécessite d'envoyer de l'eau à haute pression, donc sous la terre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette eau ? Où est-ce qu'on va la chercher ? Et qu'est-ce qu'on met dedans ? Et les produits qui sont utilisés ?
Mais oui, en fait, si je parle de ce sujet-là, c'est parce qu'en fait, j'avais pu m'y intéresser pendant mes études il y a quelques années. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a tout un secret autour de ça. C'est que on va peut-être en reparler à la fin, mais en tout cas, la liste des produits chimiques, donc c'est des produits qui permettent de donner certaines propriétés à l'eau, ainsi que de détruire les roches et des biocides qui permettent de limiter le développement bactérien dans le sous-sol. Et en fait, ces produits, ils sont pour certains extrêmement toxiques. Et sauf que la liste n'est pas disponible puisqu'il s'agit en fait d'un Enfin, elle n'est pas disponible publiquement, en fait, on la connaît maintenant, mais disons qu'il y a de l'arsenic, il y a des biocides, il y a toutes ces choses-là, des produits pétroliers. Et en fait, c'est un sujet sensible puisqu'il s'agit d'un secret industriel que les pétroliers ne veulent pas publier pour deux raisons. La première, c'est une question de concurrence, et la deuxième, c'est qu'effectivement, c'est pas très reluisant comme produit, ils sont extrêmement polluants. C'est un des problèmes. On va revenir sur la question de la pollution de l'eau, ça pose beaucoup de problèmes, mais en tout cas, effectivement, il faut comprendre ça, c'est pas que de l'eau qu'on injecte, c'est de l'eau avec des produits extrêmement toxiques à très forte pression dans le sous-sol, de façon à libérer les produits pétroliers.
Ok, et donc, cette méthode de la fracturation hydraulique, elle repose aussi sur le fait qu'on va donc aller fracturer le sous-sol, y compris à des très grandes profondeurs. Ce qu'on va entendre un peu dans le reportage, c'est deux critiques principales sur le plan environnemental. C'est du coup l'utilisation d'eau et notamment le fait qu'on va aller chercher dans des nappes phréatiques qui sont des sources d'eau potable pour cette méthode du fracking, et aussi que ça déstabilise le sous-sol et que ça accroît le risque sismique. Tu veux ajouter quelque chose ? Voilà. Et donc, notamment, là, ce qui se joue dans la contestation en Algérie, en fait, l'exploitation du gaz de schiste en Algérie, elle se ferait dans le grand sud algérien, donc dans une région qui est désertique. Et l'eau qui serait utilisée pour cette extraction du gaz de schiste, c'est une eau qui serait pompée dans une nappe phréatique très profonde et très ancienne. En fait, c'est de l'eau fossile, c'est ce qu'on va entendre. Les gens l'appellent la nappe albienne. Voilà. Donc c'est une eau qui est potable, qui est propre et qui est profonde, et dans une région qui est en fait ce qu'on appelle du stress hydrique, c'est-à-dire que l'accès à l'eau, et notamment à l'eau potable, n'est pas du tout évident, que ce soit pour la consommation humaine ou pour l'agriculture. Voilà, donc il y a déjà un premier niveau de contestation qui est sur l'usage de l'eau et sur l'accès à l'eau, et puis il y a un second niveau de contestation qui est aussi sur la déstabilisation du sous-sol, l'accroissement du risque sismique, et aussi évidemment sur le risque de pollution, puisque au moment où il y a eu les premiers forages qu'on appelle exploratoires là dans le sud algérien, les habitants ont constaté aussi des pollutions, le fait que des oiseaux migrateurs qui passaient traditionnellement par la région mouraient, et ils retrouvaient beaucoup d'oiseaux morts dans la région. Voilà, donc il y a eu une grande inquiétude autour de ça. Autour de ces premiers forages qui ont eu lieu donc fin 2014, il y a eu un premier mouvement de contestation à ce moment-là, et aujourd'hui ce mouvement de contestation contre l'exploitation du gaz de schiste en Algérie ressort un peu, reprend de l'ampleur aussi dans le contexte algérien actuel, donc puisque là on est le 20 février quasiment jour pour jour, ça fait un an que le mouvement qui s'appelle le IRAK en Algérie, c'est-à-dire le mouvement pour plus de démocratie et pour la chute du régime militaire actuel. Donc ça fait presque un an que ça dure, et disons que la contestation contre l'exploitation du gaz de schiste, elle est complètement intégrée aux revendications des gens qui participent à ce mouvement, qui est donc assez massif, qui met dans la rue des centaines de milliers de personnes tous les vendredis depuis un an. Donc les revendications contre l'exploitation du gaz de schiste et les revendications un peu sur l'écologie, elles sont extrêmement liées, puisque on va l'entendre dans le reportage, le gouvernement actuel et le régime algérien actuel reposent vraiment beaucoup sur l'exploitation du pétrole, sur la manne pétrolière et sur l'argent des hydrocarbures. Et on va entendre notamment beaucoup parler du lien entre la Sonatrach, qui est l'entreprise d'hydrocarbures, l'entreprise pétrolière nationale algérienne, et le régime militaire, et aussi évidemment le lien avec des entreprises privées qui sont des entreprises, des multinationales, notamment états-uniennes. Voilà, donc on va entendre pas mal parler de tout ça. Avant de lancer le reportage, on va se mettre déjà dans l'ambiance en écoutant une petite chanson d'une rappeuse algérienne qui s'appelle Raja Méziane. On va écouter un premier morceau qui s'appelle Allô le système. Et puis on part directement ensuite sur le rassemblement qui a eu lieu le 8 février devant le siège de Total à La Défense.
Allô le système.
Rassemblement du 8 février contre le gaz de schiste, contre l'exploitation du gaz de schiste en Algérie. Et donc je suis avec deux personnes qui ont organisé le rassemblement. Est-ce que vous pouvez juste du coup vous présenter en deux petits mots ?
Oui, je suis Wardi Haddad, un membre du mouvement citoyen algérien. C'est le groupe qui a organisé ce rassemblement devant le siège de Total pour exprimer notre refus catégorique de l'exploitation du gaz de schiste en Algérie. Parce que nous ne voulons pas condamner l'avenir des générations futures dans cette région du monde. Et surtout, nous ne voulons pas compromettre l'avenir des générations futures. C'est un combat qui est extrêmement important pour nous.
Et donc vous ?
Je m'appelle Amara Ben Amara. Je fais partie également du mouvement citoyen algérien. Nous sommes à l'origine de. Nous sommes les organisateurs de cette belle après-midi pour dire non au gaz de schiste. Et nous voulons également protester contre la future exploitation des gaz de schiste. Nous voulons protéger la nappe de l'Albien, qui est très très importante pour les populations locales, que ce soit en Algérie, en Tunisie ou en Libye, ou bien au-delà. Et nous sommes là également pour protester contre ce président illégitime, non élu, dont le peuple algérien ne veut pas.
Du coup, est-ce que vous pouvez juste nous préciser un peu qu'est-ce que c'est le mouvement citoyen algérien, c'est ça que vous avez dit ? Juste en deux petits mots pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément.
C'est très simple. C'est une bande de trois copains qui avaient décidé de s'organiser pour organiser des opérations au départ coup de poing pour faire écho à la révolution algérienne. Donc nous sommes quelque part le bras armé mais gentil et intelligent, non partisan, de la révolution algérienne ici en France. Jusque-là, nous avons mené déjà une première action devant Total. Nous sommes venus en action coup de poing pour dénoncer déjà la promulgation de la nouvelle loi sur les hydrocarbures en Algérie. Nous avons fait aussi une action devant Facebook qui est complice du pouvoir algérien puisqu'il censure, il ferme les profils des militants. Donc on a fait une action coup de poing là-bas. Et puis nous avons aussi fait d'autres actions, notamment devant les consulats d'Algérie, ici à Paris, dans la région parisienne, pour exprimer notre refus catégorique des élections présidentielles du 12 décembre, à l'issue desquelles, malheureusement, un nouveau président, un pantin, a été installé par la junte militaire. Et d'ailleurs, le président Tebboune n'est pas reconnu par le peuple algérien. Voilà.
Et donc sur cette question du gaz de schiste, donc là on est devant Total à la Défense à Paris. En Algérie, qu'est-ce qui se passe pour la résistance à l'exploitation du gaz de schiste? J'ai vu qu'il y a, c'était plus en 2015, en 2016, il y avait eu déjà un gros mouvement dans le sud algérien sur cette question-là. Est-ce qu'en ce moment il se passe aussi des choses? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu?
Oui, la population algérienne s'est déjà mobilisée sur ce sujet-là en 2014. Les premières manifestations ont démarré le 31 décembre 2014. Elles ont été très très fortes. Les gens ont coupé les routes pour empêcher les sociétés Total, Sonatrach, d'approcher les lieux d'exploitation. Et actuellement, en Algérie, les gens sont vraiment mobilisés. Et actuellement, les Algériens sont vraiment mobilisés contre le souhait du gouvernement algérien d'exploiter le gaz de schiste. Il y a un vrai mouvement qui est en train de s'organiser et qui, par la même occasion, a relancé la révolution en cours. À booster les mobilisations. Et c'est très, très important. C'est quelque chose de très, très mobilisateur.
Oui, j'ai l'impression, dans ce que j'ai lu dans la presse, qu'il y a un peu un lien là entre les mobilisations contre le gaz de schiste et le mouvement qui existe en Algérie pour plus de démocratie. Enfin, vu de France, on n'en parle pas tant que ça. On a entendu parler des manifestations qui ont lieu depuis presque un an dans les grandes villes algériennes, mais en tout cas sur la dimension écologique, on n'en entend pas forcément beaucoup parler. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est intéressé à ce rassemblement d'aujourd'hui. Et est-ce que, du coup, comme vous disiez là tout de suite, l'exploitation du gaz de schiste, ça relance un peu le mouvement? Donc c'est un peu les mêmes personnes qui participent au mouvement pour la démocratie et contre le gaz de schiste et pour l'écologie?
Déjà, je suis obligée de vous reprendre. Le combat est constant en Algérie. Il ne s'est pas arrêté. Le peuple algérien marche deux fois par semaine depuis 51 semaines, c'est-à-dire depuis bientôt un an. Il ne s'est pas essoufflé. C'est vrai que la presse française, malheureusement, n'en parle pas. La presse française est muette, sourde, est aveugle. C'est très regrettable. D'ailleurs, nous l'avons dénoncé devant l'AFP. Au mois de janvier dernier. Et le combat contre l'exploitation du gaz de schiste vient appuyer déjà cette révolution de contestation et surtout cette révolution qui a pour but de dégager le système algérien. C'est-à-dire que les deux combats, la lutte contre l'exploitation du gaz de schiste et le combat pour faire dégager le système, converge vers le même but. Il s'agit du même et seul combat. Voilà. Parce que c'est ce pouvoir qui veut justement qui veut exploiter le gaz de schiste. Donc voilà, les deux combats ne sont pas parallèles. Ils se convergent, ils se nourrissent mutuellement.
Oui, et puis on sait aussi que le pouvoir algérien, historiquement, il repose aussi beaucoup sur l'argent du pétrole et des hydrocarbures et la collaboration avec les grosses entreprises d'exploitation des hydrocarbures. Okay.
catégorique, ferme et définitif à l'exploitation du gaz de schiste en Algérie, dire non à l'empoisonnement des Algériens et de l'environnement, notamment de la nappe de l'Albien. La nappe de l'Albien qui est une richesse inouïe pour l'Algérie de demain et surtout les futures générations. Nous sommes là également pour réitérer notre refus catégorique de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, comme nous l'avons fait déjà au mois de novembre dernier, puisque nous sommes venus ici pour dénoncer la promulgation de cette loi qui a été établie d'ailleurs par les cabinets conseils des sociétés pétrolières internationales et surtout qui sert, cette loi qui sert leurs intérêts au détriment de ceux du peuple algérien. Nous sommes là pour rappeler que le pouvoir algérien en place n'est pas légitime pour engager l'Algérie dans des contrats ou surtout pour l'exploitation, notamment du gaz de schiste en Algérie. Voilà. Vous avez remarqué que nous avons rebaptisé cette esplanade Sahat al-Soumoud. C'est en lien avec le lieu du même nom qui se trouve à Ain Salah. C'est le lieu où la population de Ain Salah qui avait exprimé son refus déjà en 2014 lors des forages d'exploration qui ont été effectués par Sonatrach et avec Total, même si cette dernière avait essayé de nier. Voilà, toujours dans cette logique de destruction, le pouvoir algérien, et ce malgré son illégitimité, a fait voter une nouvelle loi sur les hydrocarbures le 14 novembre 2019. Cette loi, élaborée dans les cabinets des compagnies pétrolières étrangères, selon les dires même de l'ancien ministre de l'Énergie, comporte des points très graves, à savoir la nouvelle loi autorise implicitement l'exploitation du gaz de schiste en Algérie. En effet, cette nouvelle loi autorise des forages jusqu'à moins 3500 mètres. Comme elle ne spécifie pas la technique à utiliser, ce qui autorise implicitement même la fracturation hydraulique. Un seul puits nécessite 25 000 mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de la consommation d'une ville de 100 000 habitants. Ce qui entraînera une surexploitation de la nappe phréatique, en plus d'autres conséquences tout aussi néfastes, telles que la pollution des eaux de surface, les tremblements de terre et l'émanation de quantités importantes de méthane, qui est un gaz à effet de serre 4 fois plus important que le CO2.
Pouvoir assassin, otage complice. Pouvoir assassin, otage complice. Pouvoir assassin, otage complice. Pouvoir assassin, otage complice.
Les Européens, et notamment la France, interdisent l'exploitation du gaz de schiste sur leur sol, mais acceptent que Total et consorts le fassent dans les autres pays. Quel mépris! Pour rappel, la contestation contre l'exploitation du gaz de schiste par le peuple algérien remonte déjà à 2014, lors des premiers forages d'exploration réalisés à Ain Salah et par Sonatrach et Total. Des manifestations ont alors eu lieu sur les lieux concernés, puis à Alger. Mais ces manifestations ont été violemment réprimées par le pouvoir algérien. Nous sommes ici pour dénoncer la volonté de mainmise de Total et consorts sur sur le pétrole et le gaz algérien. Nous sommes aujourd'hui ici pour exiger de Total et consorts, notamment ExxonMobil, l'arrêt immédiat de ce projet macabre. Nous ne voulons pas d'un Reagan bis. Nous sommes ici pour dire... Nous sommes ici pour dire à Total et consorts que le sol et le sous-sol algérien appartiennent au peuple algérien et par conséquent, toutes les décisions devront être prises en concertation avec ce dernier. Nous prévenons enfin Total et consorts que tous les contrats signés avec ce pouvoir dans le cadre de la nouvelle loi feront systématiquement l'objet de procédures judiciaires pour les faire annuler. Car cette loi a été promulguée par un pouvoir illégitime. Nous lançons un appel aux ONG environnementales, aux associations et collectifs d'avocats pour engager des actions judiciaires contre l'État algérien et les sociétés pétrolières engagées dans ce plan mortifère afin d'arrêter immédiatement le projet au nom de la protection des populations et de l'environnement.
On lève la main, Kouna, pour une photo pour toute l'Algérie, s'il vous plaît. Toutes les mains levées.
Yeah.
On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM pour Zoom Écologie. Aujourd'hui, on s'intéresse au gaz de schiste, à l'exploitation du gaz de schiste en France et en Algérie. Et donc, on retourne au rassemblement du 8 février 2020 devant le siège de Total, qui était appelé par un groupe de militants algériens contre l'exploitation du gaz de schiste dans le Grand Sud algérien.
1 million de litres d'eau pour un puits. Vous pouvez alimenter la ville de Ouargla en eau potable pendant une année. Ça, c'est une seule injection. Pour vous donner un repère de comparaison, ce qui s'est passé en Pennsylvanie, aux États-Unis, il y a un territoire sur 200 km où il y a 490 000 puits. Vous entendez bien? 490, c'est pas 490, 490 000 puits. Chaque puits consomme à chaque injection 20 millions de litres d'eau douce. Sachant que c'est les États-Unis qui ont c'est un pays qui a beaucoup de ressources en eau douce. Et là, ils nous vendent cette grande arnaque, ce crime contre l'humanité et contre la nature, l'environnement. Pour d'abord extraire cette eau de l'Albien, des profondeurs, pour la réinjecter dans la roche à des milliers de mètres, donc au minimum à 2000 mètres de profondeur. Et ça peut aller jusqu'à 3500 mètres.
Le Sahara n'est pas à vendre, l'Algérie n'est pas à vendre.
Non, toute l'Algérie.
Toute l'Algérie.
Pas comme ça. Non, pas toute l'Algérie.
On voit bien que la préoccupation centrale du gouvernement illégitime est de comment faire plus de profit dans le dos des travailleurs. Et non pas d'améliorer donc le niveau de vie des Algériens et encore moins de se préoccuper de la santé de la population. Les richesses d'un pays sont là pour satisfaire les besoins de la population et non pas les profits et les capitalistes. Il y en a assez, il y en a marre, Aïna.
Ouais.
Il y en a assez, ça a assez duré comme ça. Nous devons nous organiser en masse pour lutter et pour dégager ce gouvernement que je reprécise illégitime et contre la politique de Bouteflika poursuivie par Tebboune. Pour cela, mes chers compatriotes, non seulement il faut discuter partout de nos revendications, que ce soit ici ou là-bas, mais aussi il faut construire une grève générale, j'insiste sur ça, mais ce n'est pas évidemment un point fondamental, mais c'est un point extrêmement important. Il faut construire une grève générale qui pourrait être lancée en premier lieu par les travailleurs de l'énergie et des hydrocarbures. Et appuyée évidemment par les autres secteurs de travail. Il faut faire des assemblées, discuter de ce qu'il faut faire et comment faire. Discuter avec, j'insiste encore, les travailleurs et les syndicats de Total. Parce que c'est uniquement ensemble qu'on pourra vaincre ce système. Et pour terminer, je dis, nous disons en tant que militants de la gauche révolutionnaire, non à l'exploitation du gaz de schiste et des hydrocarbures. Non à la poursuite de la loi des finances. Ni par les multinationales étrangères, ni par les multinationales algériennes, pour l'unité de la classe ouvrière indépendante du gouvernement, pour une Algérie libre et démocratique, pour une Algérie fraternelle, pour une Algérie socialiste, débarrassée du capitalisme.
Bravo!
Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter?
Juste que l'exploitation du gaz de schiste, Si elle a lieu, elle va permettre la régénération du pouvoir qui est en place. Et le peuple algérien ne veut pas de ça. Nous voulons absolument que ce pouvoir parte et qu'il laisse la place à la jeunesse algérienne pour qu'il construise ce pays. Et aujourd'hui, c'est une question qui est primordiale.
Voilà. On a tous beaucoup aimé le slogan « Le peuple veut la chute du régime », donc je crois que on peut conclure là-dessus.
Clairement, il résume tout. Il est court, mais il résume tout.
Ouais.
Voilà,
merci beaucoup. Merci. On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM pour Zoom Écologie. Alors, après ce reportage qui concernait vraiment plutôt l'Algérie, on va revenir un peu sur les méthodes d'extraction du gaz de schiste qui sont un peu les mêmes en fait, que ce soit donc en Algérie, ce qui a essayé d'être fait en France et ce qui fonctionne déjà à grande échelle aux États-Unis, qui sont donc ce qu'on appelle la fracturation hydraulique ou le fracking. Est-ce que donc tu peux, Liam, nous en dire un peu plus sur cette technique et ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur ce que ça pose comme problème en termes de gestion de l'eau et de gaspillage de ressources en eau notamment.
Ouais, bah en fait le truc essentiel effectivement sur le, le problème essentiel sur la question du fracturation, c'est clairement la question de l'eau, puisque donc comme on l'avait dit un peu au début de l'émission, il faut donc injecter de l'eau en très grande quantité et à très forte pression pour fracturer la roche qui va libérer le pétrole et le gaz. Et alors, ce qu'il faut noter, c'est quand même, pour avoir une idée des dimensions, c'est que c'est 10 à 15 millions de litres d'eau par puits de pétrole. Donc c'est vraiment énorme. Et donc, pour reporter les choses, c'est plusieurs piscines olympiques, voilà, qui sont utilisées à chaque puits, à chaque forage, sachant qu'il faut un forage tous les kilomètres. Donc ça fait vraiment des quantités qui sont phénoménales d'eau. Alors cette eau en plus, elle va être acheminée par camion, c'est-à-dire que en général, donc c'est des espaces dans lesquels évidemment on n'a pas de, enfin, les quantités sont trop fortes pour pouvoir ne serait-ce que capter l'eau quelque part. Ou alors ça voudrait dire, comme on va le voir peut-être dans les déserts algériens, faire des déséquilibres hydriques absolument énormes. Et donc voilà, il y a des armadas de camions, c'est ce qui se passe dans certains États des États-Unis, avec dans le Dakota du Nord, dans l'Oklahoma ou même dans le Texas, avec des balais incessants de camions sur les routes, sur des routes qui ne sont pas faites pour, hein, et avec vraiment des millions de camions qui chaque jour font des allers-retours avec d'un côté des camions remplis d'eau et d'adjuvants, et de l'autre des camions de citernes remplis de pétrole et de gaz. Et donc c'est ça fait comme ça déjà une gestion de l'eau qui est assez énorme et qui pose énormément de problèmes. La deuxième chose évidemment sur cette question de l'eau, là, la quantité, c'est la question de sa pollution. Et d'une certaine façon, à la fois à l'entrée et à la sortie, c'est que donc, l'eau qu'on va injecter, elle va être polluée. C'est de l'eau qui est pleine de produits chimiques, d'adjuvants, on appelle ça, qui permettent donc d'augmenter la rentabilité et le fonctionnement de cette technique. Et le problème, c'est la contamination des nappes phréatiques. C'est que, donc d'après les schémas officiels, tout ça, le tuyau, il est isolé de la nappe phréatique. Et vu que les roches, elles sont en dessous, même plusieurs kilomètres en dessous, il n'y a pas de risque. Et ça, c'est la théorie. En fait, ce dont on aperçoit, c'est qu'il y a des pollutions massives de la nappe phréatique, et notamment parce qu'il y a des fuites en fait dans les conduits, parce que c'est des conduits qui font plusieurs kilomètres, et que en fait, alors ils diront toujours oui, mais c'est parce qu'il y a un problème, c'est parce que cela théoriquement c'est bon. Oui, théoriquement c'est bon, sauf que dans les faits, on s'aperçoit que les nappes phréatiques sont massivement polluées à cause de ces questions-là, notamment parce que l'eau qui est injectée, en fait, elle ressort des tuyaux et elle va polluer les nappes phréatiques qui est traversée. Et la deuxième chose, c'est que l'eau, en fait, elle ressort. Une fois qu'elle est mise sous pression, eh bien, on va en récupérer entre un tiers et la moitié. Et donc déjà, ça veut dire qu'il y en a une bonne partie qui va rester dans le sous-sol à plusieurs kilomètres de profondeur. Et la deuxième partie qu'il va falloir stocker. Enfin, il va falloir en faire quelque chose. Et c'est là que c'est, encore une fois, la question de la gestion du désastre. C'est que, par exemple, il y a plusieurs possibilités. Alors, il y a un État des États-Unis, la Pennsylvanie, où ils ont décidé de rejeter l'eau à côté des stations d'épuration et de le retraiter comme n'importe quel déchet qui serait dans l'eau. Et évidemment, ce qui devait arriva, l'eau a été massivement polluée pour des millions de personnes, notamment de la grande ville de Pittsburgh. Donc c'est des gros problèmes. Et donc l'autre possibilité, c'est de stocker cette eau. Et alors encore une fois, c'est où est-ce qu'on stocke tous ces déchets de l'industrie ? Alors ça va être dans le sous-sol comme d'habitude. Et donc là encore, la question de la pollution, en fait, en second terme de la nappe phréatique se pose, puisque cette eau, on sait que les roches sont poreuses, c'est-à-dire précisément pour ça qu'on peut en extraire le pétrole. Et du coup, il y a des contaminations. Et voilà. Donc la question de l'eau, elle est vraiment, vraiment centrale dans ces questions-là. Sur toute la chaîne, que ce soit au moment du creusement du puits, au moment de l'exploitation ou au moment du recyclage de tout ça, c'est la question centrale de la pollution de l'eau et de sa gestion qui se pose à ce moment-là. Voilà. Donc on comprend bien effectivement dans le désert algérien, la question elle se pose peut-être encore plus qu'ailleurs. Après il y a d'autres problèmes qui sont presque accessoires, la question des nuisances, puisque en fait il va falloir, comme je disais, acheminer tout ça par camion. Donc c'est une nuisance incroyable il faut voir les images des États-Unis. Il y a quelques vidéos qui montrent vraiment des balais de camions, mais c'est un flot continu de camions qui est vraiment monstrueux. Et donc on voit déjà tout l'appareillage technologique qui en fait ruine un territoire pour extraire son sous-sol et qui change radicalement en fait les espaces. Et la deuxième, c'est le mitage du territoire, à savoir qu'il y a un puits tous les kilomètres, ce qui nous fait, faut voir qu'aux États-Unis, donc les chiffres au début des années 2010, ça a un peu freiné, c'est 1500 à 2000 puits par an. Voilà. Donc c'est des trucs qui sont vraiment énormes. Et donc ça fait des dizaines de milliers de puits, et surtout c'est sur des espaces qui sont c'est des régions, quoi, ce qui fait qu'à la fin vous avez ça se voit du ciel, c'est un mitage du territoire total, un peu comme vous remplacez les éoliennes en France par des puits ou par des derriques, et vous avez un nouveau paysage qui est un paysage d'exploitation pétrolière massif. Et donc ces espaces là sont d'un point de vue social, en fait, sont largement transformées, puisque vous avez des villes qui n'existaient pas, vraiment une sorte de ruée vers l'or ou de ruée vers le pétrole, comme les États-Unis ont déjà connu, avec des transformations massives de villes champignons qui poussent et qui se détruisent immédiatement, puisque l'exploitation, elle est très courte, elle dure 10 ans en moyenne. C'est une destruction du territoire à très court terme, 10 ans, pour en exploiter l'intégralité du sous-sol et se barrer et laisser des ruines, quoi.
Oui, et puis là, dans le cas de l'exploitation du gaz de schiste en Algérie, ce qui est fou, c'est qu'on a quand même un peu de recul maintenant sur le désastre que représente cette méthode de la fracturation hydraulique et, de manière plus générale, le désastre environnemental que c'est l'exploitation du gaz de schiste. Et pourtant, les sociétés américaines et la Sonatrach, donc algérienne, et le gouvernement algérien sont prêts à imposer ça aussi à une partie du territoire algérien, alors qu'on sait à quel point c'est destructeur. Voilà. Et donc, ce qui rajoute en fait à la colère des habitants et des habitantes, c'est ça aussi, c'est de dire on a du recul, on sait que c'est désastreux, et pourtant vous voulez nous l'imposer. Voilà. Est-ce que, ouais, par exemple, sur la contestation, est-ce que tu...
Avant, je vais reprendre un tout petit point sur la question justement de la pollution et sa nécessité, en fait. C'est que théoriquement, tout ce qu'ils nous disent les pétroliers et leurs prestataires, puisque il faut voir aussi que l'exploitation du gaz de schiste, c'est pas un pétrole qui arrive et qui creuse un puits, c'est tout un ensemble de prestataires qui sont des foreurs, qui sont des exploitants, qui sont, enfin bref, des concessionnaires, enfin c'est extrêmement compliqué, et qui en fait diluent toutes ces choses-là, toutes ces responsabilités. Ça, c'est déjà assez essentiel. On peut pas simplement dire Total, ce serait trop simple. Et pareil, en fait, pour l'exploitation, pour la compagnie nationale, en fait, c'est pas non plus elle qui fait les forages. Enfin, oui, c'est tout un truc d'une sorte d'écosystème comme ça de l'exploitation pétrolière qui est extrêmement complexe, avec évidemment ses ramifications françaises. Enfin bon. Et en fait, donc. Ils nous disent que théoriquement, en fait, ça peut être propre. C'est qu'en fait, si le puits est bien fait, si les produits sont les bons, si ceci, cela, bon. Et en fait, dans la réalité, c'est radicalement différent. Déjà, ils ont obtenu au début des années 2000 un abaissement radical de la loi de protection de l'environnement aux États-Unis. La première, c'est donc de revoir ce qu'ils appellent la Clean Water Act. C'était la protection de loi sur l'eau, qui est une loi fondamentale aux États-Unis. Et donc, eux n'y sont pas soumis. Voilà, premier truc. Ouais, les pétroliers ne sont pas soumis à cette loi, à savoir qu'ils n'ont pas à justifier des rejets qu'ils font et de la pollution et des produits. C'est-à-dire que l'EPA, qui est donc l'agence de protection, n'a pas eu accès aux produits qui étaient déversés. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. Et ils ont fait la même chose pour la Clean Air Act, qui est donc l'équivalent. Et donc, ça concernait cette fois-ci les rejets gaziers dans l'atmosphère, où effectivement, ici non plus, il n'y avait pas d'études de ce qui devait être fait. Et il y avait une dérogation, voilà, de fait, sur ce truc-là. Et en fait, eux, ils disent, oui, mais regardez, on peut changer nos pratiques, on peut être moins polluant. Par exemple, on pourrait mettre moins d'adjuvants ou des adjuvants moins polluants, on pourrait faire moins de rejets, on pourrait faire plus de retraitement. Et effectivement, ils ont des techniques, d'une certaine façon, de retraitement des millions de litres d'eau qui sont déversés. Le problème, c'est que si jamais ils font ça, la technique n'est plus rentable. Et ce qui fait qu'en fait, ici, il y a vraiment un truc qui fait que cette technique n'est exploitable précisément que parce qu'il y a un abaissement des lois environnementales et une pollution massive. En fait, si l'ensemble de la chaîne est propre, alors la technique est plus rentable et du coup ne vaut plus le coup. Et du coup, c'est vraiment un choix, un vrai choix technologique qui est fait. C'est pas simplement une facilité qu'on leur fait, c'est que s'il n'y a pas cette dérogation et la pollution, alors la technique n'est pas exploitable. Et évidemment, on va retrouver ça en Algérie, où il n'est pas possible que cette technique soit faite proprement. C'est-à-dire que voilà, si le gouvernement met des lois trop drastiques, alors ce ne sera pas rentable, ils ne le font pas. Voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là.
Ok, merci. Et donc là, ce qu'on a entendu un peu aussi dans le reportage sur l'Algérie, c'est le fait que donc Total, une entreprise française, mais aussi ExxonMobil, qui est une entreprise états-unienne, sont en train de travailler avec la Sonatrach algérienne pour l'exploitation du gaz de schiste algérien. Et ce que disent aussi pas mal les activistes algériens, c'est en fait Total ne le fait pas en France. Mais pourtant, vous voulez le faire en Algérie, et donc de pointer aussi un peu ce résidu de rapport colonial qu'il peut y avoir aussi entre la France et l'Algérie. Il y a des choses qui ne sont pas tolérées en France, mais qu'on va pouvoir faire en Algérie parce que c'est un territoire sur lequel les lois ne s'appliquent pas de la même façon, sur lequel on n'a pas forcément le même regard. C'est peut-être dans les yeux des... En tout cas, c'est ce qui apparaissait un peu dans les discours là, du rassemblement, dans les yeux des entreprises... comme Total, c'est peut-être un peu moins grave de polluer l'Algérie que de polluer la France. Et puis c'est un désert, voilà. Mais il faut bien voir qu'en France, il y a eu des tentatives d'exploiter le gaz de schiste, notamment donc en Seine-et-Marne et dans le sud de la France. Voilà, et que si ça ne s'est pas fait, c'est aussi parce qu'il y a eu des contestations et des mobilisations en France, et que si personne n'avait contesté, peut-être qu'il y aurait actuellement des puits et des dérics aussi en Ardèche et sur le Larzac. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être, sur ce qui s'est passé et sur la contestation qui a eu lieu dans, sur la, l'exploitation du gaz de schiste en France ?
Bah oui, bah c'est, en fait, c'est un truc qui était... en fait, très court dans l'histoire environnementale française, parce que ça s'est réglé en 6 mois. Mais du coup, alors déjà pour le, nos auditeurs parisiens, je ne sais pas s'ils le savent, mais il y a des dérics en Ile-de-France. Hein. C'est, si, voilà, si on prend la route direction Seine-et-Marne, eh bien, voilà, la limite entre la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis, eh bien, il y a des dérics. Voilà. Et parce qu'en fait, il y a une, voilà, une exploitation pétrolière, un peu, alors, elle est, c'est un pouillem par rapport à la consommation française, tout ça, mais n'empêche qu'elle est implantée dans, le, dans, dans l'espace national. Et pareil, donc, en Aquitaine, il y a le, l'espace de Lac, qui est une ville donc, au sud de l'Aquitaine, où il y a une ancienne exploitation gazière qui est encore là, hein, voilà, et qui marque beaucoup ce territoire-là, avec une implantation totale très forte dans le territoire. Et, voilà. Et en fait, ces espaces-là, ils sont anciens, et passer à l'exploitation du gaz de schiste n'aurait pas forcément été un gros problème. Le problème du gaz de schiste, c'est que donc, déjà, il implique une technologie, une nouvelle technologie qui est beaucoup plus polluante, en tout cas voilà, qui est pas régulée, voilà, qui a un nouveau nom, donc c'est nouveau, voilà, tout ça. Et la deuxième, c'est que les espaces sont pas les mêmes, c'est que la carte de l'exploitation pétrolière, en fait, elle a changé, et notamment aux États-Unis où il y a des espaces qui se recoupent. Par exemple, le Texas est une exploitation pétrolière très ancienne, et du coup, bon, bah, c'était dans une continuité comme ça, mais il y a d'autres endroits qui sont des, voilà, des endroits tout nouveaux avec une vraie ruée vers le pétrole, comme l'Oklahoma ou le Dakota du Nord. Donc voilà, un changement radical de la géographie de l'exploitation pétrolière, et qui n'est pas sans conséquence, puisque bah, là il se trouve que d'une certaine façon, pas de bol, eh ben, le gaz de schiste était massivement présent dans le Larzac, qui est un endroit réputé en France, j'imagine que les auditeurs le savent, pour la contestation historique qui s'y conduit, notamment sur les questions environnementales. Donc c'est hérité de la contestation contre l'implantation d'une base militaire dans les années 70, qui fait que les gens, certains sont restés, ont fait une nouvelle exploitation agricole, enfin bon, et en gros c'est José Bové, quoi. Et donc alors ils avaient fait un peu gaffe à pas y aller, et puis bah le problème c'est que la concurrence faisant, et ben des entreprises américaines beaucoup moins au fait de la géographie politique française, ils sont allés et ont commencé à demander des permis pour aller creuser au Larzac, quoi. Et donc là, évidemment, bon, le bas de combat localement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si c'était pas passé par là, peut-être ça aurait pas été autocontesté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc de l'ordre de la géographie politique des contestations qui joue. Et il faudrait voir, peut-être, Pauline, toi, tu sais mieux, parce que c'est toi qui as fait le reportage, sur est-ce que c'est les mêmes endroits, parce qu'on sait qu'il y a une exploitation pétrolière ancienne en Algérie, à quel point... les espaces sont les mêmes ou pas. Et du coup, parce qu'à l'échelle nationale, ok, on sait tout ça, mais localement, ça joue beaucoup. Et du coup, si tu peux nous dire ça.
En fait, un des points qui est intéressant sur l'Algérie, c'est que là, le Grand Sud algérien, et notamment la ville de Insala, où ont eu lieu les premières contestations contre l'exploitation du gaz de schiste en 2014-2015, c'est la même région où avaient eu lieu les essais nucléaires français dans les années 50-60, et où il y a déjà eu du coup des mouvements de protestation, et notamment un mouvement pour les réparations des dégâts causés par ces essais nucléaires, que ce soit sur l'environnement ou sur la santé des habitants. Donc les gens étaient déjà sensibilisés à ces questions-là, même si c'est pas forcément exactement les mêmes générations, et que là, ce qui est intéressant aussi sur Insala, c'est que ça a été un mouvement transgénérationnel, et ça a été aussi beaucoup les femmes qui sont sorties dans la rue, Donc voilà, donc ça a été un mouvement un peu exemplaire au sens où il a vraiment engagé toute une région et pas seulement certaines parties de la population, peut-être les parties les plus éduquées ou quoi. Là, ça a vraiment été tout le monde et dans un mouvement très volontaire, quoi, très déterminé. Est-ce qu'on conclut peut-être sur cette question du gaz de schiste voilà, en disant qu'on va continuer à suivre ce dossier, en tout cas à la fois sur l'Algérie, et puis peut-être aussi essayer de donner des nouvelles un peu de ce qui se passe ailleurs.
Ouais, mais aussi voir un peu la dynamique historique actuelle, c'est que mine de rien, là, le choix que s'apprêterait à faire le gouvernement algérien d'autoriser et d'exploiter réellement ces espaces, il est vraiment contre-historique. Hein, puisque si les États-Unis sont actuellement, donc il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'exploitations de gaz de schiste aux États-Unis, le problème c'est que là, ça devient de moins en moins rentable parce que les cours chutent vraiment, notamment à cause d'une concurrence pétrolière des anciens pétroliers. Et en fait, beaucoup de pays renoncent à ça actuellement. Donc déjà, la France y a renoncé en 2012. Interdiction de l'exploitation de la fracturation hydraulique sur le territoire national, donc déjà on est a priori tranquille pour un bout de temps, mais il y a d'autres pays, je veux dire là l'Angleterre a renoncé à l'exploitation des gaz de... enfin en tout cas une nouvelle fois a renoncé à la technique de fracturation hydraulique qui est nécessaire pour l'exploitation des gaz de schiste l'année dernière, et donc d'autres pays comme ça, et en fait disons que les pays qui exploitent ce pétrole là sont plutôt minoritaires, c'est des anciens pays pétrolier est en fait très largement marqué par une très grande libéralité de l'exploitation industrielle du pays, et c'est les États-Unis et l'Australie quoi, et en fait voilà, il y a plutôt un mouvement de décélération de ça et même peut-être de recul, parce qu'en fait actuellement les États-Unis se rendent compte qu'ils sont en train de laisser des régions exsangues de l'exploitation minière, et que là sur les questions environnementales, alors avec Trump au niveau national c'est compliqué tout ça, mais en tout cas la dynamique historique est plutôt un recul sur ces questions là et du coup avoir l'Algérie qui arriverait maintenant faudrait voir ce qui est en jeu précisément et comment ils vont réussir à justifier ce mouvement contre-historique. Je sais pas.
C'est ce que disent très bien les personnes dans le reportage, c'est aussi que là, ce qui se joue pour le gouvernement algérien, c'est sa survie, en fait. Puisque c'est un gouvernement, c'est un régime qui est dépendant des revenus des hydrocarbures, et que même si le peuple veut la chute du régime, elle aura peut-être pas lieu tant qu'auront pas eu lieu non plus la chute des hydrocarbures. Voilà. Mais voilà, donc on peut se quitter là-dessus. Et puis, pour conclure, on voudrait vous rappeler aussi que le 29 février, le samedi 29 février, il y a une grosse manifestation à Nantes contre les grands projets inutiles et imposés. Nous, on essaiera d'y aller. Si parmi nos auditeurs et auditrices, il y en a qui sont dans le coin de Nantes, donc c'est un super rendez-vous. Vous pouvez trouver toutes les informations sur les réseaux sociaux, sur Internet, notamment auprès du collectif Terre Commune. Et puis, on se quitte là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Zoom Écologie.
Bonne soirée.